France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Ils touchent chaque année 160 000 personnes dans notre pays et sont à l'origine de 30 000 décès. Les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de handicap physique acquis de l'adulte, la deuxième de démence. Tout doit donc être fait pour réduire leur gravité et, si possible, éviter leur survenue. Heureusement, on ne cesse de progresser dans ce domaine. Diagnostic, traitement, rééducation, les techniques et connaissances sont de plus en plus importantes. Mais il faut, pour bénéficier de tous ces progrès, que le grand public connaisse les signes de ces accidents afin d'alerter au plus vite, parce que chaque instant compte. Quand le cerveau est privé d'oxygène, chaque seconde sans traitement, ce sont près de 2 millions de neurones qui disparaissent, d'où ce concept « le temps, c'est le cerveau ». Quels sont les signes qui doivent inquiéter et que faire s'ils surviennent? En quoi consiste la prise en charge et comment réduire les inégalités qui existent encore, notamment selon les régions de France? Quelles sont ces nouveautés qui améliorent le pronostic et où va la recherche? Et comment éviter qu'un tel accident ne se produise? Nous répondons à toutes ces questions avec le professeur Charlotte Cordonnier. Charlotte Cordonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de neurologie, chef de service au CHU de Lille, présidente de la Société française neurovasculaire et chercheuse à l'INSERM. Alors ces accidents, ça fait partie des problèmes médicaux qui ont bénéficié ces dernières années d'immenses progrès pour réduire et la mortalité et les séquelles. Quand vous avez commencé dans cette spécialité, c'était quoi le pronostic des patients qui étaient victimes d'accidents vasculaires cérébraux ?
Eh bien, le pronostic commençait légèrement à s'améliorer. Donc, il y avait une forte mortalité, mais surtout un grand handicap. Et donc, c'était au début des années 2000. Et on commençait à comprendre que le fait d'avoir des unités spécialisées avec l'expertise médicale, mais surtout l'expertise des aides-soignantes, des infirmières, des kinés, des orthophonistes, permettait de limiter les complications. Donc, début des années 2000, on limite les complications, mais on n'est pas encore capable de guérir l'AVC.
Alors déjà, on va commencer par le début et définir ce qu'est un AVC, ou plutôt les AVC. Grossièrement, il y en a de deux types. Vous pouvez nous dire simplement les choses.
Dans 80% des cas, il s'agit d'un infarctus du cerveau, c'est-à-dire une artère qui s'occlut. Et dans 20% des cas, en tout cas en France, il s'agit d'une artère qui va se déchirer. À l'échelle du monde, c'est un peu différent. Par exemple, en Asie, c'est 40% d'hémorragie cérébrale.
Et grossièrement, les causes principales de ces deux types, qui sont donc deux types différents?
L'infarctus cérébral est lié à l'occlusion des vaisseaux, principalement sur une maladie qu'on appelle l'athérome, donc le cholestérol qui se dépose à l'intérieur des vaisseaux.
C'est la même chose qu'un infarctus au niveau du cœur.
C'est le même mécanisme de souffrance des artères qu'au niveau du myocarde, absolument. Et puis, à la différence de l'infarctus du myocarde où il y a une seule cause, la graisse dans les vaisseaux, eh bien dans le cerveau, il y a une hétérogénéité des causes avec également, par exemple, les causes que l'on appelle cardio-emboliques, c'est-à-dire la fréquence cardiaque qui va devenir irrégulière, c'est ce qu'on appelle la fibrillation atriale, à peu près un tiers des cas, surtout chez la femme à partir de 70 ans. Et puis, il y a une troisième cause fréquente qui s'appelle la maladie des petits vaisseaux, qui est surtout associée à l'hypertension artérielle chronique. Les petits vaisseaux deviennent un peu rigides et finissent par ne plus perfuser le cerveau.
Alors on a bien compris que plus la prise en charge va être précoce et meilleure vont être les chances à la fois de survie et de réduction du handicap. Devant quels signes on s'alerte? Il faut vraiment les rappeler.
Il faut les rappeler car chacun peut être le héros de son voisin ou de son conjoint ou de ses parents. C'est-à-dire repérer que brutalement, on perd une fonction neurologique. Donc brutalement, un bras lourd, une jambe lourde. Brutalement, une difficulté pour s'exprimer. Brutalement, je ne vois plus d'un côté. Eh bien, si ces signes surviennent, même lorsqu'ils ne durent que quelques minutes, il faut absolument appeler la régulation centre 15.
On précise bien qu'il faut effectivement appeler le 15 et pas mettre la personne dans sa voiture et l'emmener aux urgences, parce qu'on peut perdre du temps. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des conséquences. Vous venez de le dire, ces signes peuvent apparaître et disparaître rapidement, quelques minutes. Ça, là aussi, il faut s'inquiéter de ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. On ne doit pas le banaliser.
Les accidents ischémiques transitoires sont fréquents. On estime qu'à peu près un tiers des personnes qui va présenter un infarctus cérébral, quand on les interroge, avaient présenté des signes transitoires. Or, c'est le meilleur moment pour intervenir, puisque l'artère va s'occlure quelques minutes et le corps va être en capacité à lever l'obstacle. Et si l'on intervient rapidement pour comprendre le mécanisme, on va pouvoir mettre en place une prévention qui va éviter l'occlusion complète et définitive.
Mais c'est vrai que les gens, dans ce cas-là, ont peur de déranger le 15 ou un médecin pour rien, en se disant bon, il ne faut pas minimiser, c'est important.
On l'a redit en introduction. Première cause de handicap physique acquis de l'adulte, deuxième cause de démence, c'est aujourd'hui un AVC toutes les 4 minutes en France. C'est énorme.
Et ça ne concerne pas que les personnes âgées, même si on a cette impression. C'est vrai que c'est plus fréquent avec l'âge, mais il y a quand même pas mal de personnes plus jeunes qui sont touchées.
En effet, les accidents vasculaires cérébraux peuvent toucher les enfants, les adultes jeunes et puis les adultes moins jeunes. Ils touchent les hommes, ils touchent les femmes et ils touchent tous les territoires de notre pays. On estime qu'environ 25% des accidents vasculaires cérébraux surviennent chez les moins de 65 ans, 10% chez les moins de 45 ans. Alors, ça paraît des petits pourcentages, mais il y en a tellement que ça représente plus de 16 000 personnes chaque année qui présentent un AVC alors qu'ils sont jeunes en activité professionnelle.
Ce facteur de risque et l'âge n'est pas modifiable, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. On reviendra tout à l'heure sur la prévention, mais on estime que dans près de 80% des cas, on aurait pu éviter ces accidents. Qu'est-ce qu'il faut surveiller dans sa vie comme facteur de risque? Vous avez parlé des troubles du rythme. Ça, effectivement, ça peut se surveiller avec un suivi quand on a des soucis. Mais sinon, l'hypertension, par exemple, il faut la dépister.
Oui. Connaître ces chiffres et devenir acteur de sa santé en ayant cette connaissance, c'est vraiment le meilleur moyen de prendre soin de son cerveau. L'hypertension artérielle, c'est-à-dire mesurer sa pression artérielle, alors soit chez son médecin traitant, soit dans une pharmacie, et la traiter si nécessaire et surveiller que le traitement est efficace, c'est important. L'hypertension artérielle, c'est probablement l'ennemi numéro un du cerveau. Et puis en plus, on protège le cœur, le rein, les yeux. Le cholestérol, faire une prise de sang régulièrement pour éviter d'avoir trop de cholestérol qui va se déposer dans les vaisseaux.
Qui permet au passage de surveiller le diabète, la présence de
le diabète, c'est un élément et ce qui augmente énormément. Connaître son poids, ça c'est à peu près maîtrisé. Connaître son niveau d'activité physique, finalement, y revenir régulièrement. Alors, il faut aussi ne pas fumer, ça reste la base. Puis, vous évoquiez la fibrillation atriale. Un geste simple, prendre son pouls et vérifier s'il est régulier.
Vous faites le geste, mais ça se voit pas. Au niveau du poignet,
donc,
avec
oui,
deux doigts.
Au niveau du poignet, voilà. Avec deux doigts. On peut le prendre aussi au niveau du cou, au niveau de la carotide. Et c'est l'irrégularité du rythme cardiaque qui doit alerter.
Et donc, à consulter, encore une fois.
Ouais, connaître ces chiffres.
Il y a quand même une méconnaissance de ces signes, de ces facteurs de risque. Écoutez Bernadette qui témoigne après l'accident survenu à son mari. Elle s'exprime dans le téléphone sonne sur France Inter. Écoutez.
Il souffrait d'hypertension. Il souffrait de cholestérol, il était très très souvent migraineux, il a consulté énormément de médecins. Aucun ne m'a dit que ça pouvait être très grave, personne ne m'a mise en garde. Et lorsqu'un soir il a été pris de maux de tête excessivement violents, il voyait des étoiles, c'était horrible. Moi je n'ai pas su, parce que je n'étais pas au courant, je n'ai pas su comprendre la gravité de ce qui se passait. Et ça fait 3 ans que je revis sans cesse la scène. Nous habitions à l'époque près de Bordeaux, nous habitions même à Bordeaux, nous habitions pas loin du CHU. Si j'avais su ça, peut-être bien que j'aurais pu non seulement faire le 15, mais peut-être déjà, peut-être me précipiter au CHU, je ne sais pas. Moi j'en veux beaucoup au corps médical qui n'a pas su me mettre en garde.
Ça, c'était en 2008. Est-ce que aujourd'hui, le grand public et a fortiori les médecins ne réagiraient plus comme ça aujourd'hui? Ça se voit plus aujourd'hui?
Les connaissances de la population générale sur les signes d'accidents vasculaires cérébraux restent incomplets. Une enquête récente l'a montré. Je pense que ce patient et son épouse étaient au courant des symptômes d'infarctus du myocarde. On a dû lui dire, et puis il devait y avoir des affiches dans le cabinet médical si brutalement vous avez mal dans la poitrine. On le fait pas encore suffisamment, même en 2025, en ce qui concerne les signes d'accidents vasculaires cérébraux.
Pourquoi? Parce qu'il y a un tabou sur cette maladie, il y a quoi?
Lorsque l'on dit qu'un AVC survient toutes les 4 minutes, ça veut dire qu'autour de nous, on en connaît. Et effectivement, il y a un tabou. L'organe cerveau, l'organe un peu mystérieux.
Et noble.
Et noble, avec la conscience, la connaissance, la capacité à vivre en société, finalement. Ça fait peur. Et quand une personne connue présente un accident vasculaire cérébral, on minimise ou on le cache, alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle de son ou de ses cancers.
Alors concernant ces connaissances inexactes, il y a effectivement une fausse idée qui circule selon laquelle les femmes seraient protégées par leurs hormones. Or, l'accident vasculaire cérébral aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité féminine devant le cancer et il est plus toxique pour son cerveau que pour celui d'un homme. Et vous avez en 2016 fondé avec d'autres chercheuses WISE pour Women Initiative Stroke Europe pour un travail commun sur les particularités vasculaires chez la femme. C'est quoi ces particularités ?
D'abord, c'est repérer qu'il y a trois périodes à très haut risque chez la femme. Le début de la contraception qui nécessite un interrogatoire personnalisé et en particulier une mise en garde chez les patientes qui fument et qui sont migraineuses. Là, il faut choisir le type d'hormones auxquelles elles peuvent avoir accès. La période de la grossesse, c'est un élément extrêmement important. Une très belle étude française par Santé publique France, la cohorte Inception a permis de montrer à quel point c'était une période à risque, et en particulier pour les femmes qui vont faire une hypertension artérielle ou un diabète pendant la grossesse. Ce facteur de risque disparaît à l'accouchement et les femmes oublient qu'elles sont potentiellement à risque très important à partir de 40 ans et elles devraient pouvoir avoir accès à un parcours particulier. Et puis le moment de la ménopause où effectivement les modifications hormonales font que le niveau de cholestérol peut augmenter, l'hypertension artérielle peut arriver et c'est aussi une période où il est nécessaire de refaire le point sur son histoire familiale et sur ses antécédents. Mais les différences entre les hommes et les femmes ne s'arrêtent pas aux différences hormonales. Et même si elles sont encore peu étudiées, on sait que le système de coagulation est différent. L'anatomie des artères et les angles, la taille du cou sont différentes. Et le métabolisme des médicaments est aussi extrêmement différent. Donc la femme n'est pas un mini-homme. Il y a encore, vous le voyez, beaucoup d'éléments à rechercher dans cet axe.
Parlons maintenant de la prise en charge et des progrès, je le disais, qui ont été réalisés ces dernières années. Devant un signe d'accident vasculaire, on a bien compris, on fait le 15. Le SAMU arrivé sur place fait quoi ? Comment il peut savoir si c'est un accident hémorragique ou un accident ischémique ? Donc si une artère s'est bouchée ou si une artère s'est rompue, parce qu'on va parler de traitement, c'est pas le même. Mais comment on sait déjà ? Comment il va faire ?
La première notion importante, c'est qu'on appelle le centre 15, mais il n'est pas nécessaire dans 90% des cas que le SAMU se déplace. L'idée, c'est appeler le 15 pour la régulation, pour savoir où aller et pour avoir le moyen de transport le plus rapide à un moment donné. La difficulté, c'est que lorsque l'on examine la personne à domicile ou que l'on l'interroge au téléphone, on sait que c'est un AVC, mais on est incapable de faire la différence. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Il va falloir emmener la personne victime de cet AVC vers la structure où se trouve l'imagerie cérébrale pour pouvoir faire la différence entre l'artère qui s'occlut ou l'artère qui saigne. Et c'est vraiment la différence avec l'infarctus du myocarde. Hein. On ne peut pas aller à domicile faire un ECG.
Il n'y a pas 40 mécanismes à l'infarctus du myocarde. Et il y en a, et c'est très important parce que le traitement est différent. On va commencer par le traitement donc de l'AVC ischémique, le plus fréquent, donc l'artère qui se bouche. Ça va être quoi le traitement ?
On va essayer de reperfuser le plus rapidement possible le cerveau.
C'est-à-dire que le sang recircule dans l'artère.
Absolument. On va de ce fait avoir deux méthodes. Une méthode où on fait une perfusion qui va mettre un médicament qui va dissoudre l'obstacle. Mmh. Et puis, lorsque l'obstacle est à un endroit particulier des vaisseaux, eh bien on va aller essayer de le chercher mécaniquement.
Ça, c'est plus récent, c'est 2015. Hein.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique, alors qui nécessite un plateau technique et une compétence particulière. Il y a aujourd'hui à peu près 60 centres en France.
Bien répartis sur le territoire ?
Non, mal répartis sur le territoire. Il y a des zones, par exemple la région PACA, qui pose problème, la Corse, et puis d'autres régions de France où effectivement, on est obligé d'avoir des temps de transfert longs. Or, vous l'avez dit, chaque minute compte.
combien de temps on a pour pouvoir faire ces gestes pour que le sang circule à nouveau dans l'artère, selon les deux techniques, pour au maximum réduire le handicap?
Au moment où les médicaments ont été développés, dans les études, c'était 4h30 pour injecter.
Entre les premiers signes ?
Oui, 4h30 après le début des symptômes et l'injection, ou 6h pour le geste mécanique. On retient que le mieux, le plus tôt, c'est le mieux. Mais grâce à l'imagerie multimodale, c'est-à-dire cette IRM qu'on va faire rapidement, ou ce scanner multimodal, on va pouvoir finalement avoir une vision de l'horloge cérébrale de chaque individu qui est différente. Et on sait aujourd'hui que certaines personnes pourraient bénéficier du traitement jusqu'à 24 heures. Donc vous comprenez, il y a un maillage territorial, il y a un accès à une imagerie, puis surtout accès à une expertise 24 heures sur 24 qui doit se faire au plus proche du domicile.
Pour l'accident hémorragique, on fait quoi? Le temps n'est pas compté de la même façon? C'est pas la même urgence?
L'accident hémorragique, c'est encore plus urgent que l'accident ischémique, parce que à partir du moment où le sang va se mettre à s'expandre dans le cerveau, il va falloir essayer de trouver des moyens d'arrêter ce saignement. Malheureusement, aujourd'hui, une personne sur deux qui présente une hémorragie cérébrale va décéder au cours du premier mois. Et parmi les survivants, une personne sur deux va rester dépendant. Il y a quelques moyens efficaces pour commencer à diminuer l'expansion de cette hémorragie. C'est notamment de baisser très rapidement les chiffres de pression artérielle. Et puis après, on est dans le domaine de la recherche.
On y reviendra, bien sûr. On parlait de ces déserts médicaux quand même, hein, qui créent une inégalité entre les patients quand il n'y a pas d'unité spécialisée près de chez eux. La télémédecine peut être une aide dans ce cas-là ?
Oui, c'est une aide pour apporter l'expertise au plus près du patient. Par exemple, mon équipe au CHU de Lille a le petit ordinateur 24 heures sur 24, c'est essentiellement beaucoup la nuit, est capable d'apporter son expertise sur tout le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Et
il faut quand même qu'il y ait eu l'IRM.
Parce que justement, ce qu'on a organisé, c'est que on a organisé un accès à l'imagerie 24 heures sur 24 sur 12 sites, et on est en capacité par télémédecine de donner un avis d'expert pour délivrer les traitements d'urgence vitale qu'est la thrombolyse, et identifier le patient qui aura besoin de venir sur le centre de thrombectomie mécanique, le bon patient au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est utile pour délivrer ce traitement d'urgence vitale, mais ça ne résout pas le problème de l'expertise et de l'expérience pour prendre en charge le patient après ce traitement d'urgence vitale. Et là, c'est un défaut de lit insuffisant au niveau des unités neurovasculaires sur notre territoire.
Alors, il y a quand même, je le disais, beaucoup de recherche. Un des axes de recherche, c'est de développer des médicaments qui vont protéger nos cellules nerveuses. Mmh. C'est quoi ces médicaments ?
Finalement, avant de réussir à remettre la perfusion cérébrale en place, on avait commencé à essayer de développer ces traitements dits neuroprotecteurs et, faut bien le dire, rien ne fonctionnait. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en capacité de réouvrir l'alimentation du cerveau, eh bien, on revisite ces capacités de neuroprotection et puis surtout ces capacités finalement autour de l'inflammation. On sait qu'à partir du moment où le cerveau et les cellules vont souffrir d'un manque d'oxygène et de sucre, eh bien, il va y avoir une cascade d'événements inflammatoires et puis des microthromboses en périphérie du cerveau. Et c'est vraiment sur ces axes-là que l'on travaille énormément aujourd'hui.
Autre axe de recherche passionnant, c'est de faire en sorte qu'une zone du cerveau vienne prendre le relais de celle qui a été abîmée par l'accident. Et ça, c'est la notion de plasticité du cerveau. C'est quoi ça d'abord, cette plasticité du cerveau ?
Donc c'est à la fois apprendre à de nouvelles zones du cerveau des nouvelles fonctions. On sait que dans le cerveau, chaque zone a une mission particulière. La zone de la main, la zone du langage. Et notamment grâce aux techniques de rééducation, on va réapprendre à la zone qui s'occupait par exemple de la main gauche à gérer aussi la main droite. Donc là, il y a les techniques de rééducation fonctionnelle. Et puis, on s'est rendu compte aussi que finalement, on pouvait vais aider ces zones à mieux réapprendre en stimulant. Et c'est probablement l'enjeu des années à venir, en essayant de fournir des nouvelles cellules.
Cellules souches.
Notamment des cellules souches. Et on a en France une équipe à Grenoble qui travaille beaucoup sur ce sujet, pour se dire, on va amener dans ce cerveau un environnement propice avec des nouvelles cellules super dynamiques qui vont apporter pleines de bonnes énergies pour essayer de réapprendre.
C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de nouvelles cellules nerveuses, mais on va apprendre à contourner ce problème, en fait.
Exactement. Ce qui est détruit ne peut pas être réparé. Et donc, il faut essayer de trouver des manières, d'abord, de limiter la destruction, et puis de compenser cette destruction, et notamment travailler sur l'environnement. Je prends souvent cette image, les cellules nerveuses, elles sont dans une forêt, il faut que les arbres soient en bonne santé, que les feuilles soient en bonne santé, que le sol soit de qualité, et ça c'est vraiment le fait de travailler sur cet environnement.
Autre recherche, on évoquait ces AVC hémorragiques, qui sont donc moins nombreux que les autres, environ 3000, un peu délaissés par la recherche, il faut bien dire, et vous l'avez dit, ils meurent ou souffrent de lourds handicap dans un cas sur deux. C'est quoi le projet que vous avez pour mieux les prendre en charge ?
Alors, c'est un peu plus de 3000, puisque ça représente 20% des 160 000.
Oui, 30 000, je voulais dire, pardon.
Ouais. 3000. Donc, 30 000 avec un très mauvais pronostic. Donc, nous avons justement monté à Lille un consortium de chercheurs qui développe ces stratégies. D'abord, on va essayer d'arrêter le saignement par les techniques notamment interventionnelles. Et puis ensuite, on va essayer de promouvoir le fait de pouvoir enlever le sang en toute sécurité, parce que lorsque du sang arrive dans le tissu cérébral, là encore, il y a une cascade inflammatoire catastrophique qu'il faut absolument stopper. Et puis, on essaye aussi de développer des nouvelles stratégies médicamenteuses, notamment en repositionnant des médicaments qui sont utilisés depuis longtemps dans d'autres maladies et qui peuvent jouer sur cette neuro-inflammation pour améliorer la récupération. C'est vraiment un enjeu de transformer le pronostic, c'est d'ailleurs le titre de notre consortium, transformer le pronostic de ces patients en travaillant aussi sur le maillage territorial, c'est-à-dire c'est bien de faire de la recherche, mais à partir du moment où on a cette découverte, il faut pouvoir l'implémenter rapidement et puis surtout aussi impliquer les patients dans cette recherche participative.
On continue avec la recherche, avec la chronique d'Alexandra Delbault à Aix-Sciences, qui s'intéresse à l'effet de l'alimentation sur la santé du microbiote. Manger sain seulement de temps en temps, ça ne suffit pas, écoutez.
Manger sain de temps en temps est-il suffisant pour avoir un microbiote en bonne santé ? Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui résident dans nos intestins. On sait d'ailleurs que nous hébergeons dans notre organisme un peu plus de bactéries que de cellules humaines. Dans les intestins, ces microbes bénéfiques pèsent entre 1 et 5 kilos. Ils jouent des rôles fondamentaux. Ils nous aident à digérer, à assimiler des nutriments, à fabriquer des vitamines. Ils participent aussi au bon fonctionnement du système immunitaire, influencent la satiété et, selon certaines recherches récentes, pourrait même agir sur notre humeur et notre santé mentale. On commence à peine à mesurer toute l'importance de cet équilibre et comment nos habitudes alimentaires influencent cette flore. Marcel Salaté est professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et directeur du laboratoire d'épidémiologie numérique basé à Genève.
Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas encore trop sur ce lien. On sait qu'un microbiote qui est divers, c'est un microbiote qui est sain. Mais par contre, quelle est exactement l'influence de la nutrition sur le microbiote ? Ça, on a quelques idées, mais pas trop. Par exemple, on sait que manger des légumes, manger des fruits, des fibres et ainsi de suite, ça c'est important, mais c'est un peu le maximum ce qu'on sait aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui manque de clarté, je dirais. Si on s'intéresse à l'alimentation dans une recherche, on fait une recherche épidémiologique ou médicale, il faut déjà savoir ce que les gens mangent. Et c'est là toute la difficulté, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est on a donné des questionnaires, des sondages, ce qu'on appelle en anglais les food frequency questionnaires. Et là, on répond un peu ce qui est notre alimentation normale, entre guillemets. Mais ça se fait par mémoire.
Et c'est une limite méthodologique très importante. Quand on vous demande de vous souvenir souvenir de ce que vous avez mangé, vous allez avoir du mal à être exhaustif. Vous allez oublier certains aliments, et c'est normal. S'ajoute à cela un autre biais, parce que vous participez à une étude sur l'alimentation, vous allez avoir tendance à enjoliver un peu votre menu, à ne pas mentionner ce petit 4 heures, à mettre de côté ce repas tout prêt, englouti un midi où vous n'aviez pas le temps. Bref, d'avoir, plus généralement, une meilleure opinion de vos repas que ce qu'il en est réellement. C'est tout le problème des questionnaires autodéclaratifs, ça ne se limite pas au domaine de la santé. Pour pallier ces difficultés, une nouvelle étude parue dans Nature Communications a eu recours à une application MyFoodRepo. Les 1000 participants ont pu scanner les codes barres des aliments, quand c'était possible, ou bien ils ont pris une photo de leur assiette. Comme ça, pas de triche et pas d'oubli. Et c'est une intelligence artificielle qui est chargée de reconnaître le contenu. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle peut elle aussi se tromper. C'est pour cela que des examinateurs humains vérifient toutes les données. L'algorithme fait tout de même gagner un temps précieux aux scientifiques et permet de standardiser la collecte, tout en rendant l'expérience plus ludique pour les participants. Mais ces derniers n'ont pas seulement photographié leur repas, ils portaient aussi un capteur de glycémie, suivaient leur sommeil et leur activité physique, et ils ont fourni un échantillon de sel pour analyser la santé de leur microbiote. Résultat, je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est une évidence, la régularité d'une alimentation saine est aussi essentielle que la quantité. Celles et ceux qui consomment régulièrement des aliments variés et équilibrés présentent un microbiote plus riche et plus diversifié.
Autrement dit, répéter chaque jour des bases simples, des légumes, fruits, céréales complètes et ainsi de suite, c'est vraiment associé à un microbiote plus riche. On n'a pas été totalement surpris, non, parce qu'on avait un peu l'idée que ça sera le cas, mais pratiquement, encore une fois, on ne sait jamais jusqu'au jour où on a vraiment les données pour vraiment démontrer que c'est le cas. Il y a aussi quelque chose d'autre, il y a un index qui s'appelle Healthy Eating Index, qui calcule finalement un score entre 0 et 100. Nous, ce qu'on a fait, on a calculé ça par jour, et c'était le facteur qui était le plus fortement lié à la diversité du microbiote, ce qui était extrêmement intéressant aussi. Les gens pensent toujours qu'ils mangent assez, de manière assez saine, mais c'est souvent pas le cas. Je l'ai constaté moi-même. Moi aussi, j'ai pensé que j'avais une alimentation assez saine. Et puis, une fois que j'ai commencé à suivre ça un peu avec cette application qui maintenant calcule de manière automatiquement le Healthy Eating Index, j'ai réalisé, waouh, c'est pas tout à fait le cas.
Les chercheurs eux-mêmes ont du mal à être parfaits, preuve qu'il ne faut pas culpabiliser, ce serait contre-productif, d'autant que l'obsession de consommer de la nourriture saine est un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. Ce qu'il faut retenir donc, c'est l'évidence. Nous avons tous et toutes en tête le slogan 5 fruits et légumes par jour. Cette étude montre à quel point l'aspect quotidien est essentiel. Plus vous mangez sain, en quantité et régulièrement, plus votre microbiote est diversifié et mieux c'est pour votre santé. L'enjeu désormais, c'est de comprendre pourquoi un microbiote riche protège l'organisme et à l'inverse, comment l'alimentation ultra transformée dérègle cet équilibre.
On vient de parler d'alimentation, très important pour la prévention évidemment de ces accidents vasculaires cérébraux. Deux axes peut-être essentiels en dehors de ce qu'on a déjà dit, alimentation, activité physique.
Acteur de sa santé, c'est regarder ce que l'on mange, éviter l'alimentation riche en graisse, éviter l'alimentation ultra transformée, les légumes, les fruits, voilà. Mais c'est aussi bouger, pas forcément faire du sport, parce que sinon il va y avoir des réticences.
Bricoler, jardiner.
Mais bricoler, jardiner, marcher, bouger, être actif, et ça, ce sera très bon pour le cerveau et cette forêt dont je vous parlais, pour la qualité de ses feuilles, de ses arbres et de son sol.
Merci beaucoup, c'était passionnant. On a bien compris qu'il fallait être très vigilant sur ces signes et ne jamais hésiter dans ce cas-là à appeler, quitte à vous qu'on vous dise que tout va bien. L'essentiel, c'est surtout d'appeler. Merci beaucoup. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en ondes.